11h-11h30 sur RCN, Nancy Express.
C'est le plus grand musée d'Europe, regroupant près de 2 siècles d'histoire du chemin de fer en France. La cité du train de Mulhouse est une référence en matière de conservation du patrimoine ferroviaire. Et à l'approche des vacances d'été, je vous propose de partir en Alsace à sa découverte. Sylvain Werneret, directeur général du musée de la cité du train de Mulhouse, sera avec nous dans quelques minutes sur RCN, juste après les actus transports de ces 2 dernières semaines. Bienvenue dans Nancy Express, nous sommes ensemble pendant une demi-heure.
Nancy Express sur RCN.
Et on commence par le pass TER prévu pour cet été, pour rappel destiné aux jeunes de moins de 27 ans, qui donnera accès à tous les trains régionaux et intercités en France, sauf en Île-de-France, devrait être mis en vente à partir de samedi pour un prix de 49€ par mois. Ce pass sera disponible pour les mois de juillet et août. L'achat du pass se fera via SNCF Connect. Kevin Speed, une jeune société fondée en 2021, souhaite développer son service de TGV pas cher dans le nord et l'est de la France d'ici fin 2028. Et serait en négociation avec Alstom pour l'achat de 20 rames TGV. Les lignes projetées sont Paris-Lille, Paris-Lyon via Le Creusot et Mâcon, et sur la ligne à grande vitesse est-européenne, c'est-à-dire la ligne Paris-Strasbourg via Lorraine TGV, Meuse TGV et Champagne-Ardenne TGV. Mais les doutes sont là alors que l'entreprise cherche à lever 1,2 milliard d'euros d'ici la fin de l'été pour pouvoir commander ses trains, construire un atelier de maintenance et toutes les autres opérations nécessaires au lancement du service. En plus de la difficulté financière, il semble quasiment impossible qu'Alstom, si le contrat est signé, puisse livrer les 20 rames d'ici fin 2028 pour le lancement du service. Pour donner un ordre d'idée, le TGVM, le futur TGV de la SNCF qui sera mis en service au début de l'année prochaine, aura mis près de 7 ans entre la commande et la mise en service. De plus, le modèle économique interroge avec des prix annoncés très faibles de l'ordre de 3 euros les 100 km. Et au vu des prix des péages que devra verser Kevin Speed à SNCF Réseau pour l'entretien du réseau comme tout autre opérateur, il semble difficile même avec des trains pleins d'atteindre la rentabilité. La compagnie souhaite jouer la carte d'un service régulier avec un train toutes les heures au mieux sur les lignes desservies. Il y a quelques semaines, la région Grand Est a annoncé rendre obligatoire à partir du 6 juillet la réservation des places à bord des TER en provenance et à destination de Paris. Cela concerne la ligne Paris-Strasbourg via Nancy et la ligne Paris 3 à Mulhouse. Cette mesure intervient alors que ces deux lignes font face à une très forte fréquentation, le but étant de garantir une place assise à tous les passagers. Une mesure qui divise car il sera un peu plus difficile de prendre son train sur ces lignes à la dernière minute avec le risque que le train soit déjà pleinement réservé. Même son de cloche pour les associations d'usagers, dont celle du TER Vallée de la Marne, qui indique qu'il est difficile pour les travailleurs de prévoir quand ils vont pouvoir quitter le travail en fin de journée. Une étude récente de la SNCF a rendu ses conclusions. Dernièrement, elle visait à mieux cerner le profil de ses voyageurs dans les trains régionaux en France. Après avoir interrogé 44 000 usagers, les résultats ont de quoi surprendre quelques-uns. Un tiers des usagers des TER en France a entre 18 et 26 ans, alors qu'ils ne représentent qu'à peine 10% de la population française. Plusieurs raisons sont avancées, notamment celles des politiques tarifaires très attractives des régions envers les jeunes, comme la carte Fluo Jeune en Grand Est à 1€ par an, qui permet de bénéficier du demi-tarif sur l'ensemble des trains. En Occitanie, par exemple, à partir du 11e trajet mensuel pour les trains pour les moins de 26 ans, le TER devient gratuit. Par contre, pour les plus de 60 ans, il ne représente que 10% des passagers régionaux alors qu'ils représentent près d'un tiers de la population. Cela peut s'expliquer par des difficultés pour prendre le train entre l'achat des billets qui sont désormais souvent dématérialisés et une offre qui n'est pas forcément lisible. Et enfin, la dernière information importante que nous apprend l'étude, c'est qu'un usager sur 10 monte à bord du train avec un vélo ou une trottinette. Cette information permettra notamment d'alimenter les réflexions sur la disposition des nouveaux trains pour mieux répondre notamment aux besoins des usagers. Et puis on en parlait lors de la dernière émission, il y a 2 semaines, Urban Loop va bientôt s'élancer à Saint-Quentin en Yvelines, une première boucle de 2 km pour relier un parking relais et une fan zone pour les épreuves qui se dérouleront au Vélodrome et pour les épreuves de BMX qui se dérouleront à proximité du site. Top départ de la première boucle d'ici le mois de juillet. C'est la fin de ces actualités transport dans quelques instants. Nous partirons à Mulhouse à la découverte de la cité du train où m'attend Sylvain Werneret, directeur général du musée de la cité du train. On en parle dans 3 minutes sur RCN. Merci de nous écouter. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall.
And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
11h, 11h30, Nancy Express sur RCN.
Il est 11h08 sur RCN. Merci d'écouter RCN, vous écoutez Nancy Express. Bonjour Sylvain Verneret.
Bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne.
Mais c'est un plaisir, vous êtes directeur général du musée, donc la Cité du Train à Mulhouse. Alors on va revenir sur l'histoire de ce musée et puis ce que vous proposez désormais, puis certaines choses très récentes, on en parlera. Tout d'abord, première question, pourquoi avoir voulu créer à Mulhouse un musée du train ?
Alors en fait, c'est une très longue histoire, puisque le musée a ouvert ses portes pour la première fois en 1971. Et en fait, c'est le fruit, je dirais, de la passion de deux Mulhousiens au départ, passionnés de chemin de fer bien évidemment, qui, pour faire simple dans l'explication, ont eu l'idée de créer un musée. Donc ils se sont rapprochés à l'époque de SNCF, qui possédait une collection très importante de matériel historique, et puis bien évidemment de la ville de Mulhouse. Et ils ont commencé à mettre en place un petit peu ce projet, et ça a donné naissance effectivement à l'ouverture de ce musée français du chemin de fer à partir de 1971.
Et donc ce musée est toujours en partenariat avec la SNCF ?
Bien évidemment, en fait, nous avons aujourd'hui deux partenaires historiques que sont SNCF, pour une raison, j'allais dire, évidente, et notamment parce que SNCF reste propriétaire d'une grande partie des collections que nous exposons dans ce musée, et puis l'agglomération mulhousienne, M2A, Mulhouse-Alsace Agglomération, qui est effectivement un de nos partenaires historiques également.
Et puis alors, il faut préciser qu'aujourd'hui, et puis depuis sa création, ce musée fonctionne avec beaucoup de bénévoles qui viennent, il me semble, un peu des quatre coins de la France.
Alors effectivement, on a constitué depuis à peu près une dizaine d'années une équipe de bénévoles qui pour la plupart sont des cheminots en activité ou retraités et qui viennent nous soutenir au quotidien dans différentes missions, que ce soit l'animation dans tout ce qu'on propose, et on y reviendra j'imagine un peu plus tard, que ce soit dans la médiation, c'est-à-dire la présentation au public des différentes pièces de collection qui sont exposées, et puis également qui nous soutiennent dans l'entretien général du musée, puisqu'ils ont la compétence pour faire l'entretien de matériel en mécanique, j'en passe et des meilleurs.
Et c'est peut dire qu'il y a des machines à nettoyer, notamment. Pour donner un ordre d'idée, il me semble que c'est une soixantaine de bénévoles.
Oui, à peu près, avec chacun, j'allais dire, des compétences particulières, mais l'équipe, effectivement, rassemble environ 60 personnes.
Alors, ce musée, pareil, pour donner un ordre d'idée, ça représente une énorme superficie, il me semble, c'est pas loin de 13 terrains de football, c'est 60 000 mètres carrés.
Alors, en fait, on est aujourd'hui reconnu officiellement comme étant le plus grand musée ferroviaire d'Europe pour différentes raisons. L'une d'entre elles, vous venez de l'évoquer, c'est que, je le dis toujours en plaisantant, ça n'est pas le musée de la cuillère à café. Hein. Une pièce de collection chez nous, c'est en moyenne 20 à 25 mètres de long, 40, 50, voire 150 tonnes. Donc, il nous faut un peu d'espace pour exposer ces matériels. Et effectivement, l'ensemble du musée s'étend sur 6 hectares. La deuxième raison, c'est que nous présentons au quotidien dans ce musée environ 130 pièces de matériel ferroviaire roulant. Je vous fais grâce des dizaines de milliers de pièces de collection annexes qui ont un lien avec le chemin de fer évidemment, mais si on ne parle que de matériel ferroviaire roulant, c'est-à-dire locomotives, voitures et wagons, 130 pièces sont présentées au quotidien au public sur des expositions permanentes. Et puis ce qui fait vraiment la qualité et la richesse de ce musée, c'est que toutes les pièces que nous présentons, la plus ancienne date de 1844, toutes les pièces sont d'origine. Elles ont été restaurées évidemment pour être en état de présentation, mais ce ne sont que des originales, pas de reconstruction ou de réplique.
Et puis donc j'imagine que la collection a évolué au fil du temps, depuis vous en récupérez au fur et à mesure que les matériels sont radiés, et puis bien sûr tous les anciens matériels. Pour les plus vieilles locomotives, à qui elles appartenaient ? Encore à la SNCF ou à des collectionneurs ?
Non, en fait, c'est SNCF qui avait constitué cette base de collection initiale qui a permis d'ouvrir le musée dès 1971. Donc ça reste propriété SNCF, mais pour les plus anciennes, celles que je citais à l'instant, qui datent de 1844, ce sont évidemment des machines qui étaient exploitées par les anciennes compagnies ferroviaires privées françaises qui existaient avant la création de SNCF.
Oui, dans la région, ici, c'était la Compagnie de l'Est. S'il y avait trois machines emblématiques à voir absolument, ou les plus emblématiques, on va dire, du musée, est-ce que vous arrivez à choisir ?
Alors ça, c'est l'éternelle question et c'est toujours extrêmement compliqué. Cela dit, pour y répondre et pas faire, j'allais dire, une réponse de Normand, on a la chance d'avoir des pièces tout à fait uniques. L'une d'entre elles qui est peut-être ma préférée, parce que je suis, en dehors de ce musée ferroviaire, je suis aussi un passionné automobile. Donc je citerai volontiers l'autorail Bugatti. C'est un autorail créé par Ettore Bugatti, construit par Ettore Bugatti, et qui est une pièce unique au monde, puisque nous sommes les seuls à avoir un exemplaire présenté au musée. La deuxième chose, je citerai volontiers une machine à vapeur, en l'occurrence une machine qui s'appelle la Crampton, qui est une machine qui date de 1852, que l'on surnommait à l'époque le lévrier du rail, et qui est une des toutes premières machines à avoir fait une liaison commerciale entre Paris et Strasbourg. Une liaison qui se fait aujourd'hui grâce à la ligne à grande vitesse sur laquelle circulent les TGV à 320 km/h. Et puis enfin, peut-être une dernière, pour parler de voitures transportant des voyageurs, on a la chance d'avoir deux voitures présidentielles, dont la PR2, PR pour Présidence de la République, qui a notamment été beaucoup, beaucoup utilisée pour les déplacements officiels du général de Gaulle.
Oui, puisqu'il faut dire, il y a beaucoup d'anciens wagons qui, à l'époque, ça n'avait pas le même niveau de confort qu'aujourd'hui en termes de... évidemment pour les trains de luxe, hein, puisque les trains régionaux étaient moins confortables qu'aujourd'hui, mais il y a notamment, on peut retrouver, il me semble, certainement on doit venir d'un train présidentiel ou même une cuisine dans un wagon. Il y avait tout à l'époque dans le train.
il y avait tout, et effectivement, le chemin de fer a toujours accompagné, j'allais dire, le besoin du voyageur. Et à une certaine époque, on avait notamment différentes catégories sociales, c'est comme ça qu'on les surnommerait aujourd'hui, avec les grands bourgeois, l'aristocratie, et puis une catégorie de population qui disposait de beaucoup moins de moyens financiers. Et à chaque fois, le chemin de fer s'est adapté à ça. Pour être très concret, on expose notamment dans nos collections, sur un espace très particulier qu'on appelle l'univers du voyage, justement, tous ces moyens de transport et toutes ces niveaux de confort qu'on pouvait avoir avec des voitures de quatrième classe et puis les choses les plus prestigieuses comme les voitures de la compagnie internationale des wagons-lits, clairement l'Orient Express qui était, j'allais dire, le summum, presque un palace sur rail.
Oui, c'est vrai, oui, c'est magnifique, c'est de très grosses machines aussi, vraiment, même pour ceux qui ne sont pas passionnés de ferroviaire comme nous, et du rail, c'est vraiment un musée très impressionnant avec, surtout les anciennes, notamment locomotives à vapeur, qui sont parfois très, 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 très grandes, notamment avec des roues parfois de plus de 2 mètres de haut, des mastodontes du rail à l'époque. Alors ce musée, vous le disiez, il y a à peu près 130 pièces que vous exposez. Mais vous faites également des activités que vous proposez à la Cité du Train à faire. Tout d'abord, il y avait l'Y-Expérience. Qu'est-ce que c'est ?
Alors en fait, vous venez de le dire, hein, on a développé une multitude d'animations, d'événements qui viennent en complément de la visite traditionnelle de ce musée, de manière à être le plus attractif et le plus vivant possible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous touche particulièrement. Donc, Y-Expérience, avec l'appui justement d'une partie des bénévoles qui viennent nous soutenir, on a créé ces journées qui consistent à accueillir des gens passionnés ou non d'ailleurs, et à leur faire sur une journée très conviviale une initiation, une découverte au métier de la conduite. Donc en fait, la journée se passe de manière très conviviale où on les accueille le matin, on leur fait, j'allais dire, un peu de théorie sur les métiers de la conduite, et puis la deuxième partie de journée est consacrée à la vraie conduite d'un engin ferroviaire.
Oui, pour l'avoir fait il y a un peu plus d'un mois, c'est vrai que c'est assez exceptionnel et puis c'est rare de pouvoir proposer ça et c'est vraiment quelque chose de très particulier, unique que vous pouvez proposer, ça c'est vraiment un avantage. Même la partie théorique se déroule dans un wagon, vraiment vous êtes transporté dans le monde ferroviaire pendant une journée complète. Alors ça c'est donc Y-Expérience, vous proposez également, alors ça c'est tout nouveau aussi, Cabine Expérience, qu'est-ce que c'est ?
Alors, Cabine Expérience, là encore, c'est sur une idée portée par nos bénévoles. On propose, là aussi, sur un temps de visite, de monter à bord de certaines locomotives et d'avoir effectivement une présentation qui est faite par un ancien conducteur SNCF, une présentation à la fois de l'espace, cabine de conduite, et puis aussi de l'ambiance de ce métier. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très interactif. Et donc, on a choisi trois locomotives emblématiques, bien évidemment une locomotive à vapeur, avec ses postes de conduite qui sont très spectaculaires, tels qu'on peut les voir dans des films comme La Bête humaine, par exemple, et on est vraiment immergé dans cette ambiance, j'allais dire, très bestiale de la conduite d'une machine à vapeur. La deuxième machine qu'on a choisie, c'est une machine mythique, puisque c'est une des deux machines qui a battu un record du monde de vitesse en 1955. Donc, quelque part, une sorte de Formule 1 du rail. Et puis, la troisième machine, parce qu'elle représente aussi beaucoup de choses aujourd'hui, c'est évidemment une cabine de motrice de TGV.
Vous avez justement dans ce musée, alors je ne sais pas si c'est celle-là que vous faites visiter, la motrice est désormais un wagon du train de record du monde de 1990.
Oui, alors absolument. Ça, c'est une des dernières pièces qui rejoint nos collections. Il s'agit de la motrice 325. Alors, pour les amateurs, ça leur parlera. Hein. C'est une motrice de TGV qui a battu un double record du monde. Et effectivement, c'est une pièce emblématique avec une très haute valeur patrimoniale, puisque deux records du monde sur le TGV, qui est un matériel vraiment aujourd'hui emblématique, qui circule depuis 1981, c'est une des pièces phares de nos collections. Tout à fait.
Alors, vous proposez également un escape game. Il faut dire qu'il y a de la place dans cette cité du train.
Alors, ça, c'est aussi une des nouveautés de cette année. C'est-à-dire qu'on proposait, sur les années précédentes, et c'est toujours le cas, l'exploration game. C'est une sorte d'escape game qui se fait en équipe constituée avec un maître de jeu. Et l'idée, très sommairement, c'est d'aller faire une espèce de chasse aux énigmes dans l'ensemble du musée. Mmh. Et puis, mais ça, ça se fait de manière très organisée, sur des dates très précises. Et puis, on a eu l'idée de proposer à peu près la même formule, mais j'allais dire en libre service. C'est-à-dire qu'au quotidien, n'importe quel visiteur qui rentre dans ce musée, soit il le réserve en avance par notre site internet, soit il le fait directement à l'accueil du musée, il peut participer à un jeu qu'on a donc appelé Escape Game. Donc on lui remet une mallette. Le premier défi, la première énigme, ça va être de trouver le code d'ouverture de cette mallette grâce à des indices, bien évidemment, c'est le principe général. Une fois que la mallette est ouverte, il va pouvoir déambuler dans l'ensemble des musées, puisque dans cette mallette, on va trouver des objets, des documents qui vont lui permettre d'aller d'énigme en énigme et de résoudre l'enquête finale. Donc quelque chose qui a un gros, gros succès, puisque ce jeu se fait en famille, entre amis, entre collègues. C'est très convivial, c'est intergénérationnel, ça se joue de 7 à 77 ans, comme on dit communément, et c'est quelque chose qui fonctionne plusieurs fois par jour.
Puis j'imagine que ça permet de faire découvrir autrement l'histoire du ferroviaire français.
Mais c'est toute l'idée, en fait. C'est-à-dire que depuis très longtemps, on a cette démarche de vouloir faire découvrir notre collection fantastique, j'en ai parlé précédemment, mais peut-être d'une manière plus ludique. Aujourd'hui, le visiteur ne se contente plus, j'allais dire, de se prosterner religieusement devant une pièce de collection, un train en l'occurrence chez nous, et de l'admirer. Ce qu'il veut, c'est pouvoir utiliser, toucher, comprendre, et puis quelque part aussi, et il faut bien avoir conscience de ça, s'amuser tout en découvrant. Et c'est tout le principe qui nous a conduit à créer ces animations, dont l'Escape Game, de manière à visiter le musée tout en s'amusant.
Et puis vous organisez, pour finir, des événements un peu plus exceptionnels et ponctuels, même des mariages, il me semble.
Alors ça, c'est la partie privatisation qui est envisageable et possible au musée. On accueille un peu plus de 110 manifestations par an, des privatisations de nos espaces. Pour faire très simple et dans les grandes lignes, on est capable depuis longtemps maintenant de vous proposer de vous accueillir sur une réunion d'une dizaine de personnes à bord d'une voiture ferroviaire historique, de vous accueillir pour un repas d'entreprise au sein même de nos espaces de collection, avec un dîner de gala. Nous savons organiser des séminaires, des réunions, des lancements de produits. On fait également des événements privés, tels que vous venez de les citer, les mariages, et puis des événements aussi qu'on organise, nous, en direct, comme des dîners insolites sur différents thèmes. On organise notamment au mois de septembre, tous les ans, depuis longtemps, le Salon du modélisme. On a un grand projet actuellement qui est en train de se valider d'un salon steampunk, un festival steampunk qui se déroulera le 5 et 6 octobre prochain. Donc une multitude d'événements que vous pouvez tous découvrir sur notre site internet dans l'onglet événements. Ils sont affichés au fur et à mesure et donc vous verrez qu'on a, j'allais dire, un calendrier événementiel très très chargé.
On peut faire beaucoup de choses dans cette cité du train. J'imagine que vous avez des projets encore à venir pour ce musée, pour le faire évoluer ?
Oui, mais c'est vraiment ce qui nous fait vibrer. Quand je dis nous, c'est à la fois moi et puis les équipes qui m'entourent, de salariés et de bénévoles. C'est évidemment d'imaginer en permanence des projets. Le dernier en date que l'on a pu organiser, c'était pas plus tard que samedi dernier, à l'occasion de la Nuit européenne des musées, où on organisait des Olympiades, donc avec des défis qui étaient à relever, des défis à caractère ferroviaire, à pousser une locomotive de 32 tonnes, du pelletage de charbon, une course le long des quais avec une valise à la main, des choses de ce genre-là. Et vraiment, on essaye toujours de se creuser la tête, mais avec un grand plaisir, parce que l'organisation et le fait d'accueillir les visiteurs pour participer à tous ces événements qu'on propose, pour nous, c'est toujours un grand plaisir. Quand je revois encore samedi les petites familles qui étaient présentes à la visite de ce musée avec les grands-parents, les parents, les enfants, et qui prenaient du plaisir à relever les petits challenges, pour nous, c'est vraiment, j'allais dire, pari gagné.
Et puis donc j'imagine que, voilà, moi qui ai visité plusieurs fois ce musée-là, à un moment on va pas pouvoir pousser les murs indéfiniment. Est-ce que vous pourrez encore accueillir de nouveaux matériels ?
Alors oui, on en accueille, et je vous le disais tout à l'heure avec la fameuse motrice 325
du TGV,
on en accueille, mais effectivement, vous l'avez constaté pour avoir visité le musée, on a aujourd'hui des espaces qui sont plus que remplis.
Et donc, c'est peu de dire qu'il y a de la place quand même.
Oui, parce que sur les 6 hectares, effectivement, on a capacité à accueillir un certain nombre de pièces. Mais effectivement, ça c'est peut-être un petit peu le point noir que l'on pourra avoir à l'avenir, c'est que le musée est rempli. Alors il y aura des choix, mais ça c'est j'allais dire, le problème cornélien de tout collectionneur et de tout musée. de savoir ce que l'on préserve, ce que l'on présente, ce que l'on expose. Et donc, à un moment donné, effectivement, les collections, par définition, n'étant jamais complètes, il va falloir de temps en temps faire des choix.
En tout cas, voilà, c'est un très très grand musée à découvrir qui retrace vraiment toute l'histoire du chemin de fer français depuis son origine jusque justement même dans les années 1990 avec la rame TGV qui roulait encore il y a quelques années, hein, qui est désormais dans ce musée. Ça peut donner quelques envies de sortie, notamment à l'approche des vacances. Pour rappel, donc, le musée est ouvert tous les jours sauf le 25 décembre, donc toute l'année de 10h à 17h et même donc, jusqu'à 18h du 1er avril au 31 octobre, 15€ donc pour les adultes et 12€ pour les moins de 18 ans. Vous estimez, j'imagine que ça dépend aussi, mais vu la taille du musée, combien de temps on met pour visiter ce musée-là? Plusieurs heures?
Alors évidemment, tout dépend de l'intérêt qu'on y porte, mais en moyenne, si on devait avoir effectivement une moyenne, il faut entre 2h30 et 3h, oui, parce que ben, vous en déduirez directement par rapport à la taille du musée, le temps de cheminer, ne serait-ce que sur tous les quais, il faut un certain temps.
On fait un certain nombre de kilomètres quand même dans le musée.
On est bien d'accord, et puis si on veut s'arrêter pour approfondir un peu la découverte de certains matériels, voilà, 2h30, 3h, ça me semble être un petit minimum.
Voilà, en venant de Nancy, il faut prévoir sa journée, en tout cas. Sur Mulhouse, il y a plein de choses à voir dans ce musée. Merci beaucoup Sylvain Verneret de nous avoir fait découvrir ce magnifique musée à Mulhouse de la Cité du Train. J'aurai avec plaisir, je reviendrai certainement encore dans ce beau musée. Merci à vous.
Merci.
Nancy Express revient dans 2 semaines pour la dernière de la saison. Normalement, on sera avec la métropole du Grand Nancy pour faire le tour de ce qui va arriver dans les années à venir en matière de mobilité, d'évolution de nos transports du quotidien à Nancy et dans sa métropole, notamment avec les fameux travaux du trolley qui continuent et qui suivent leur cours. On en reparlera dans 2 semaines sur RCN avec Julien qui sera de retour. Passez une très bonne journée à l'écoute d'RCN. Salut.